continent. Avec Elgas.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, vous qui nous écoutez de partout et particulièrement sur le continent africain. Je vous salue très chaleureusement. Merci de nous accompagner dans l'exploration de la grande histoire du continent, des grands hommes et femmes qui la font, des moments clés, des dates symboliques qui continuent à forger, à éclairer, à expliquer le présent. L'Afrique, donc, sans complexe par elle-même et sans complexe non plus dans les courants du monde. Et ces courants nous portent en 1968. Les indépendances africaines ont 8 ans et l'âge de raison va rimer avec l'âge des grandes turbulences. Et pour en prendre le pouls, deux écrivains, deux jeunes hommes en effet, jumeaux symboliques, originaires de pays voisins. L'un est malien, héritier de la grande civilisation Dogon. Il s'appelle Yambo Ologem, il a 28 ans et déjà une insolence à revendre. L'autre, ivoirien, héritier d'une chefferie prestigieuse. Il s'appelle Amadou Kourouma, il a 40 ans et déjà à son actif une langue littéraire propre. Tous les deux écrivent l'histoire africaine en plein cœur de Paris et les deux livres qui les lancent dans la notoriété ont pour titre respectivement « Le devoir de violence » et « Les soleils des indépendances ». Portrait, on peut le dire ainsi, décapant de l'Afrique anticoloniale et post-indépendance, publié tous les deux en 68. Classique dès leur naissance, les deux ouvrages ne connaîtront pas les mêmes destins, encore moins leurs auteurs. C'est donc le portrait de cette année 1968 à travers ces deux voix qu'Afrique, mémoire d'un continent, vous propose aujourd'hui en compagnie de Mohamed Mbougarsar. Mohamed Mbougarsar, bonjour.
Bonjour Elgas et merci.
Je suis particulièrement ravi de vous recevoir ici. Je suis votre ascension avec un bonheur complice depuis votre premier livre, Terre Sainte, en 2014 déjà. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il en reste, bien sûr, vous êtes un grand auteur sénégalais, lauréat du prix Goncourt 2021 pour votre livre La plus secrète mémoire des hommes, publié aux éditions Philippe Ray et Jim San. Et je dois aussi préciser que votre maître 91, tutoie le plafond du studio d'RFI. Nous allons raconter ensemble l'histoire littéraire de cette année 68. Vous aviez commencé une thèse à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, sur ce sujet, sur cette année symbolique. Et vous connaissez ainsi bien les destins de Yambo Ologem et d'Amadou Kourouma. Oui. On va commencer par le premier, oui. L'enfant Dogon de Banjagara. Oui. Je voudrais qu'on parle de son enfance. Oui. Que sait-on de sa famille, de ses origines et de son éducation ?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de parler de Yambo Ologem aujourd'hui et de commencer par son enfance, comme il se doit. Il n'est pas inutile de saisir cette enfance pour comprendre une partie de ce qui lui est arrivé et une partie des raisons qui sont au cœur du devoir de violence. Ologem est né en 1940 dans la région de Banjagara. Il est le fils d'un inspecteur de l'éducation nationale et a donc à ce titre reçu une éducation occidentale, française, classique et assez brillante. Mais sa famille est aussi une des familles les plus prestigieuses de la Tidjania noire.
Tidjania, on précise que c'est une confrérie d'Afrique.
Une confrérie d'Afrique très importante, dont l'une des grandes figures, Elhaj Omar Tall, a conquis le Mali, une partie du Mali qui était à l'époque le Soudan français. Et Ologem fait partie de ces familles qui se sont affiliées politiquement et religieusement à la Tidjania. Cette affiliation s'est faite souvent dans la violence, donc Ologem, très jeune, participe aussi, enfin voit et témoin de cette entreprise finalement d'acculturation et de démolition qui s'est faite dans la violence. Et ça rejaillit dans son premier roman. Pour le dire donc vite, Ologem est le fils à la fois culturellement d'une éducation française, mais aussi d'une éducation religieuse très profonde liée à la Tidjania. Et il mêlera toujours ces deux filiations-là. Ça rejaillira toujours dans son travail, dans sa langue, dans ses livres. Et il en parlera toujours, souvent sous le mode de la violence, puisque les deux héritages se sont imposés par la violence.
Un héritage déjà très très contrasté et contrarié. Yambo Ologem arrive à Paris en 1960, tout un symbole d'ailleurs, cette année qui voit beaucoup de pays africains s'émanciper. Il poursuit sa formation au prestigieux lycée Henri IV, où il se forge très rapidement une impressionnante culture littéraire sur les bases déjà de cette enfance avec l'éducation du papa. Que sait-on de cette vie parisienne de Yambo Ologem qui commence à frapper aux portes de la gloire littéraire?
Alors, Ologem arrive en 40, en effet, il est tout jeune et très vite, je crois qu'il est séduit par Paris, par les lumières de Paris. C'est un jeune dandy, j'ai eu quelques témoignages d'anciens camarades de classe qui le décrivent déjà extrêmement cultivé, mais aussi assez arrogant, assez moqueur, assez ironique, assez mordant, mais assoiffé de culture, assoiffé de lecture. Il fréquente les bibliothèques, il fréquente la nuit parisienne et il est comme ça à l'affût de ce qui se passe et il commence à écrire très tôt. Dès 23 ans, c'est-à-dire qu'avant 68, donc, où il a 28 ans, dès 1963, il commence à envoyer des manuscrits au Seuil, on y reviendra. Mais disons que ses premières années à Paris sont celles, c'est pas un provincial là, pour reprendre des termes balsaciens qui nous sont chers, mais disons que c'est le jeune immigré qui arrive, qui veut découvrir, qui a déjà un fond de culture et qui veut l'enrichir, mais à tous les vents. Quoi.
Voilà. À tous les vents, ces vents d'ailleurs le portent à présence africaine. Il va écrire quelques textes dans la revue. Oui. Et on va le dire ainsi, c'est que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, parce qu'après plusieurs refus de maisons d'édition de le publier, le jeune homme passe à l'anonymat, de l'anonymat à la grande lumière du prix Renaudot qu'il décroche en 68 avec Le Devoir de violence, donc son premier livre publié aux éditions du Seuil. Pourriez-vous nous raconter l'histoire de ce livre? Elle est tumultueuse.
Alors, c'est une histoire assez tumultueuse. L'intrigue est finalement, elle n'est pas simple, mais elle s'étale sur à peu près 7 siècles et demi. Elle commence en 1202 et raconte l'histoire d'un empire qui est l'empire du Nakem, derrière lequel on reconnaît l'empire du Mali, et qui est dirigé par une dynastie de rois sanguinaires qui s'appelle les Saïf. Et derrière Saïf, on reconnaît Shérif. Ce sont donc des princes qui se réclament de la descendance du prophète. Et Ologem s'en moque. Et ces Saïfs-là soumettent l'empire du Nakem à un régime brutal, tyrannique, sanguinaire, où se mêlent des complots, de la corruption, des empoisonnements et du sexe à outrance. Et à côté de cette ligne-là, qui est celle d'une violence exercée par des notables africains sur la population africaine que Ologem se plaît à appeler toujours la négraille, il y a une autre ligne d'intrigue qui concerne un personnage qui s'appelle Raymond Spartacus Kasumi, qui, à l'époque plus contemporaine, donc au milieu du XXe siècle, va faire ses études à Paris et un peu une sorte de double de Ologem. Donc l'histoire du Devoir de violence est celle simplement d'un vaste tableau, d'une vaste fresque épique qui raconte simplement la manière dont, avant l'introduction de la colonisation européenne, la colonisation arabe avait déjà installé, avec la complicité de notables africains, une forme de violence, et une forme de violence qui est évidemment spectaculaire, mais qui est banale. Et c'est ça, finalement, l'un des paradoxes les plus significatifs de ce livre, c'est de montrer que la violence vient de partout, s'exerce partout, s'est exercée à tous les siècles, et n'est pas l'apanage d'une société donnée ou d'une couleur donnée. Évidemment, chaque société, chaque culture s'y exerce ou s'y adonne avec les moyens et les raffinements de sa culture, mais globalement, cela vient de partout, et c'est ce qu'on ne pardonne pas finalement à ce livre aussi.
Et c'est un sacre qui arrive très vite, une lumière presque aveuglante, mais pourtant le bonhomme, il reste droit dans ses bottes. On peut dire qu'il n'est pas grisé par ce qu'il arrive. Une grande verve critique. Je vous propose d'écouter cet extrait de 68.
Je ne pense pas que cela soit ce que j'ai voulu dire. J'ai tout simplement parlé de Devoir de violence à deux niveaux. Tout d'abord, la violence érigée en tant que système politique par le colonialisme des notables africains, par la faute desquels l'homme noir est devenu nègre, puisque cette notion est liée à celle du négrier. Ensuite, le colonialisme de la conquête arabe. Et enfin, le colonialisme blanc. Par ailleurs, il est évident que pour les Africains pris dans le contexte actuel, si l'on parle de devoir de violence, il s'agit d'abord et avant tout d'un devoir d'évolution créatrice, où il ne s'agit pas de cultiver une espèce d'attitude révolutionnaire faussement teintée de messianisme. Je veux dire par là que ni les révolutionnaires tels que, disons, Che Guevara, ni d'autres contestataires tels que Cohn-Bendit ne sont érigés comme modèles.
Mohamed Bougarsa, vous avez évoqué justement ces trois violences. On retrouve là toute la verve de Yambo Legem. Une critique ne passera pas. Les autres vont peut-être être bien perçus, ou en tout cas laissés indifférents, mais la critique des siens, la critique des Africains, pourquoi elle a été si dure contre lui ?
La critique des Africains a été très dure pour la simple raison que Wologem ressemble à une sorte de romancier au marteau. On a pu parler de philosophe au marteau. Là, c'est un romancier au marteau qui entreprend une sorte de démolition d'un certain nombre de mythes et de la construction ou de l'invention, pour parler comme Moudimbe, de l'invention d'une certaine Afrique. Et cette invention-là est le fruit d'abord de la négritude, mais ensuite d'anthropologues occidentaux qui ont pu donner, dont ils se moquent d'ailleurs dans le livre, comme Léo Frobenius qui devient Schrobenius dans le livre. Et Wologem dit simplement que cette vision d'une Afrique qui aurait été pure, vierge, édénique avant l'introduction de la colonisation occidentale, est une pure invention. Évidemment, ça, en pleine négritude triomphante, on ne lui pardonne pas. Senghor, qui est au seuil, donc où Wologem publie, juge le livre lamentable. Amadou Ampateba, son compatriote, juge que c'est un très mauvais livre qui, en plus, a été écrit par un Dogon. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a derrière cette phrase-là.
Afrique, mémoire d'un continent, reçoit aujourd'hui Mohamed Bougarsa, écrivain sénégalais, pour nous parler de l'année 1968 à travers les portraits des deux auteurs Yambo Wologem et Amadou Kourouma. Le succès fulgurant de Yambo Wologem ne lui attire pas que des amis. Les flèches assassines viennent d'abord des siens, comme on vient de le voir, autour de la négritude, vous l'avez cité, Mohamed Bougarsa, avant que la deuxième cisaille de l'accusation de plagiat ne vienne l'ébranler définitivement. Mohamed Bougarsa, sur cet épisode qui donne un coup d'arrêt net à son ascension, on a plusieurs versions. Avez-vous obtenu, vous, dans vos recherches, les fins mots de l'histoire ? Yambo Wologem était-il un plagiaire ?
Grande question, tout dépend de ce qu'on entend par plagiaire. Ce qui est certain, c'est que c'était un grand lecteur avec une immense culture et avec une sorte de bibliothèque dans sa tête. Et que lorsqu'on est un écrivain avec autant de lectures, on ne peut pas échapper à ces lectures-là. Ce qui est certain aussi, c'est qu'un certain nombre d'auteurs sont présents dans son écriture. Lui appelle cela des démarquages, d'autres appellent cela du plagiat. Il a dit, mais on n'a pas de preuve de cela, que son manuscrit original du Devoir de violence, qu'on ne retrouve toujours pas, était pourvu de guillemets que son éditeur, Le Seuil, a enlevé. Sur cette histoire-là, je crois qu'on n'aura pas le fameux de l'affaire tant qu'on n'aura pas retrouvé le manuscrit original. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été presque victime de sa propre culture, comme écrivain, mais écrivain qui est d'abord, comme doit l'être tout écrivain, un grand lecteur, je pense. Je ne l'appelle pas plagiaire, très personnellement, parce que je crois que s'il est un plagiaire, c'est un plagiaire d'un type bien particulier, puisqu'il est aussi doué, voire plus doué que ceux qu'il plagie parfois.
Ironie de l'histoire. Alors, la malédiction, elle ne frappe pas que les écrivains, elle frappe aussi des musiciens. Ouais. Elle a frappé Honey Abor, on écoute Jungle's God. Jump, jump, jump. Un chanteur très très original, lui aussi hélas parti sur la pointe des pieds. Mohamed Mbougarsar, que peut-on dire des autres livres de Yambo Wologam qu'il a écrit d'ailleurs sous pseudonyme?
Alors, Wologam a écrit au moins trois autres livres sous pseudonyme. Il y a d'abord eu, immédiatement après Le Devoir de violence, Lettres à la France nègre, qu'il a signé de son nom. Mais il a ensuite écrit un autre roman qui s'appelle Les mille et une bibles du sexe sous le pseudonyme du Thor Rodolphe. Et puis deux autres romans qui sont des sortes de romances, des livres d'amour sentimental, qu'il a signé sous un pseudonyme féminin, celui de Nelly Brigida. Ces deux autres livres sont assez anecdotiques, encore qu'ils aient une sorte d'intérêt sur la trajectoire d'écrivain du bonhomme. Mais les deux autres livres les plus importants, c'est Lettres à la France nègre, où il dresse une sorte de tableau assez ironique du rapport de la France à ses écrivains noirs, ou même de la communauté africaine établie en France. Et les mille et une bibles du sexe, qu'il a écrit sous le pseudonyme du Thor Rodolphe, constituent une sorte de... Oui, de grimoire tout à fait sexuel, très érotique, de fresque, qui, à mon avis, n'est que le témoignage, le récit de ces jeunes années parisiennes dont on a parlé tout à l'heure, où il était une sorte de dandy, fréquentant tous les milieux, y compris les milieux peut-être du libertinage. En tout cas, la connaissance de ces milieux qui jaillit de ce roman-là laisse penser que Wologam les a connus, et pas simplement que par la théorie.
Alors, des pistes de recherche sont ouvertes. Il demeure un épisode plein de mystères, cher Mohamed Mbougarsar, sur un séjour de Yambo Wologam à l'hôpital Sainte-Anne. Qu'en sait-on réellement et puis la fin de sa vie? Est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur cette dernière?
Oui, l'épisode du séjour à Sainte-Anne, qui n'est pas établi, est assez mystérieux puisqu'on sait qu'au moment des accusations, avant de rentrer au Mali, il y a eu une brève période où on n'a pas eu de ses nouvelles. On n'avait pas son adresse et on l'a dit malade. Ses proches l'ont dit malade, ses amis l'ont dit malade. Et on raconte, là c'est vraiment, je dis on parce que c'est vraiment des témoignages recueillis. On raconte au moment où il est rentré au Mali, il était empoisonné. Il y a plusieurs interprétations possibles de cet empoisonnement-là. Est-ce que c'est un empoisonnement réel ou est-ce que c'est un empoisonnement au sens métaphorique où il aurait été blessé par la violence de l'attaque subie? Les deux sont tout à fait possibles. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'à Sainte-Anne, par le secret médical, on ne peut pas avoir accès à ce type d'informations pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'une biographie complète de Wologam reste à établir et montrera la vérité sur ce fait. Les dernières années de la vie de Wologam, enfin les dernières années, on devrait plutôt dire les dernières décennies, puisqu'au début des années 70, en 73, il rentre au Mali, chez lui à Sévaré, et demeure à peu près silencieux. On a de temps en temps de ses nouvelles. Il continue à écrire. Donc le mythe de l'écrivain qui arrête totalement d'écrire n'est pas tout à fait vrai. Il donne quelques petites informations de temps en temps, mais globalement, c'est un silence tout de même littéraire puisqu'il ne publie plus de livres et aurait versé dans la religion. Il est retourné à la religion, donc finalement à son enfance, c'est-à-dire à la Tidjania dans laquelle il a été éduqué. Donc ces dernières années mêlent des récits de cette errance-là, mais aussi des récits qu'il faut vérifier de maladie mentale et d'une sorte de retrait progressif de la vie publique jusqu'à sa mort en 2017.
Assez varié. Étoile filante, écrivain maudit, les images et les métaphores n'ont pas manqué pour qualifier le destin de celui qu'unanimement les auteurs du continent ont célébré comme un père, sinon le premier des éclaireurs de cette année 1968. Si l'un des jumeaux, l'enfant de Banjagara, est frappé par la malédiction, l'autre, Amadou Kourouma, le fils de Boundiali, lui frappe un grand coup et s'installe comme l'autre révélation de l'année 68. Et sa vie, Mohamed Mbougarsar, est tout un roman. On va faire une pause, parcourir un point complet sur les actualités et revenir pour parler de ce facétieux Amadou Kourouma.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
De retour dans Afrique, mémoire d'un continent, et toujours en compagnie de Mohamed Mbougarsar, écrivain, prix Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes, aux éditions Philibert et Jimsan. Nous retraçons avec lui les destins de Yambo Wolegem et d'Ahmadou Kourouma pour faire le portrait littéraire de cette année 68 et de ses répercussions. Mohamed Bouguersar, Ahmadou Kourouma a eu, on peut le dire ainsi, mille et une vies.
Oui.
Enfant de la guerre, actuaire dans la région lyonnaise, activiste dans les geôles de Oufouette, Boigny, oui, avant de devenir cet écrivain majeur. Que sait-on lui aussi de cette jeunesse, on peut le dire ainsi aussi, prolifique en activité?
Kourouma a également une jeunesse qui est assez connue. Il naît en 1927 à Togobala. Et Togobala, c'est dans l'actuelle Guinée. Disons que les frontières à l'époque sont encore un peu flottantes, on va dire. Ouais. Mais disons, il est élevé d'abord par son père, mais très rapidement par son oncle, et va à l'école où il est un bon élève, pas exceptionnellement brillant, pas comme Wolegem par exemple, mais il est tout de même un bon élève, il est remarqué. Et se lance ensuite dans des études, non pas littéraires. Ce n'est pas un enfant du sérail littéraire, d'une certaine manière. Ça constitue, comme le disent certains critiques, Romuald Fonkoa par exemple, sa chance. C'est qu'il n'est pas un pur littéraire, ce qui fait qu'il découvre la littérature presque vierge de toute forme de lecture, même s'il en a, on y reviendra. Mais sa passion, ce sont les mathématiques, et il devient finalement actuaire. Personne ne sait ce que c'est. Oui. C'est un réassureur, tout simplement. Il a été un réassureur extrêmement prospère. Mais entre-temps, il a eu un certain nombre de mésaventures avec le régime de Oufouette Boigny, qui l'ont conduit jusqu'en Indochine, pendant la guerre d'Indochine. Et après son premier roman, en 68, on y reviendra, il est resté très longtemps sans publier, ce qui fait peut-être un autre point commun avec son jumeau, Wolegem, c'est-à-dire le fait de, après un premier roman, de rester très longtemps. Wolegem n'a plus réécrit. Kourouma, lui, a pu réécrire et continuer sa carrière.
Parlons de ses débuts littéraires. Comme Yambo Wolegem, il essuie lui aussi beaucoup de refus. Le livre qui va faire sa gloire est d'abord édité au Canada, oui, avant justement d'être édité en France. Pouvez-vous nous raconter l'histoire, oui, de ce livre et l'histoire de ces manuscrits qui ont été d'ailleurs primés?
Kourouma participe en 1968 à un concours qui est organisé par les presses universitaires du Québec. Il envoie son manuscrit qui s'appelle « Les soleils des indépendances » et le manuscrit est primé. Mais un des éditeurs de l'époque lui dit qu'ils auraient tout de même souhaité changer une partie du manuscrit qui était très violente, la fin du manuscrit, puisqu'il y avait des empoisonnements, il y avait des tortures, et ils ne souhaitaient pas voir cela apparaître. Et on assiste déjà là à ce qu'une chercheuse actuelle, contemporaine, Claire Ducournau, appellera peut-être la fabrique des classiques africains. Donc cette manière parfois d'éditer certains manuscrits de grands auteurs africains pour les faire correspondre à un certain public. On est en 68 là, et en 1970, le Seuil, à qui il avait envoyé le manuscrit, reprend ce manuscrit primé au Québec et le réédite. Donc, il y a deux dates de publication. La première, c'est 68. Et ensuite, il y a une publication un peu plus prestigieuse, formelle et glorieuse, qui est donc celle du Seuil en 1970.
Parlons du titre « Les soleils des indépendances », sur sa symbolique. D'ailleurs, pourquoi ne pas écouter le premier des concernés en parler?
Le soleil à Malinké, c'est l'air, comme on dit, l'air des Samouris, l'air des Français. C'est ce qu'on appelle le soleil. Alors le titre, je vais vous dire d'ailleurs, le titre ne vient pas un peu de moi. C'est vers les années 63, comme je vous ai dit. Moi-même, je ne travaillais plus. Et je suis parti un peu dans mon village. Et il y a un vieux qui m'a amené un peu dans sa case et il a fermé la case. Et il m'a demandé, il dit, mais vous qui venez de la capitale, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que l'ère des indépendances va passer? L'ère des indépendances, c'est-à-dire en Malinké, on dit le soleil des indépendances vont passer. Il me dit, évidemment, il y a eu l'époque des Samouris, l'époque des Français. Donc vient de commencer l'époque des indépendances. Et nous voyons que vraiment ça commence à être pénible. On nous met en prison, on voit des gens qui n'étaient rien, qui sont maintenant des rois, qui nous briment. Et je voudrais savoir, vous qui êtes là-bas, vous qui êtes au courant, quand est-ce que va passer cette époque?
Le soleil, une question d'astre. Oui. Mohamed Bouguersar, cet élément provient des archives sonores de la littérature noire. Oui. Est-ce votre lecture également? Est-ce que votre interprétation se retrouve dans la sienne? Et puis plus généralement, cette année 1968, Ahmadou Kourouma, les soleils des indépendances, ont représenté quoi pour l'ensemble de ce paysage littéraire?
Ce que Kuruma décrit, l'anecdote qu'il rapporte, et finalement le destin même du personnage principal des Soleils des Indépendances, Fama Doumbouya. Fama Doumbouya, totem panthère, descendant des Doumbouya de Orodougou, qui devient totem charognard puisqu'il se met à se comporter comme un charognard alors qu'il est un prince au départ. Donc c'est l'histoire d'une sorte de déclassement que subissent tout un ensemble de figures qui ont été prestigieuses avant les indépendances, donc sous la période coloniale, et qui après les indépendances ne le sont plus. Et le roman finalement raconte l'histoire de ce déclassement qui est aussi un désenchantement. Wologem comme Kuruma sont classés souvent dans cette notion de désenchantement lorsqu'on fait une histoire de la littérature africaine. Et ce désenchantement-là dit précisément une chose. Il dit que la période post-coloniale, donc immédiatement après les indépendances, a apporté autant de malheur que la période coloniale, mais que cette période coloniale elle-même n'a été que la suite d'un certain nombre de servitudes, de violences qui dataient vraiment de l'Afrique précoloniale bien avant. Donc il y a là une continuité qui est tissée. Et 1968, en littérature, que ce soit par Kuruma ou par Wologem, pose cette question toute simple. Comment en sommes-nous arrivés là? Pas seulement après les indépendances, mais bien avant. Quelle est l'histoire de la violence qui est possible et qui va du XIIe siècle de chez Wologem jusqu'à l'histoire de Fama? Il y a là quelque chose qui est proche. Wologem et Kuruma sont des jumeaux très paradoxaux. Il y a une gemellité paradoxale, mais qui raconte finalement la même histoire en prenant cette année, 68, symboliquement comme une année d'une interrogation grandement politique. Pas celle qui est formulée par les étudiants un peu partout à travers le continent, mais aussi en Europe, mais celle qui est formulée par les populations africaines elles-mêmes sur le devenir, le présent aussi et le passé de leur continent.
Afrique, mémoire d'un continent.
Les Soleils des Indépendances s'imposent vite comme un classique, avec l'histoire des indépendances ainsi décrite comme tragédie en gestation. Et la vive critique des pouvoirs politiques qui ont pris le relais des colons, Amadou Kourouma s'impose presque comme un prophète qui annonce les tempêtes à venir. Mais à côté de cette force politique présente dans ses livres, il sera surtout l'inventeur d'une langue propre. L'intégration des contes malinké de la langue malinké Bambara dans le français, il pose une marque et aura des héritiers et devra toujours batailler avec une réception pas toujours enthousiaste sur ses œuvres. Mohamed Mougarsar, comment ces prouesses, cette originalité dans la conception de ces livres, sont reçues en 1968 et dans quel livre, si on fait un peu l'inventaire de ce qu'il a écrit, on trouve cette langue unique et cette création, on va dire, kouroumienne?
C'est sa marque de fabrique, il l'a souvent dit, il a développé la question. Sous une image très simple, planter une case malinké dans la cour de Molière, cela veut dire simplement écrire en français une oralité qui lui vient du malinké. C'est un geste absolument inouï, tout à fait neuf, et c'est pour ça qu'il est stupéfiant. C'est un pionnier absolu en la matière, en tout cas dans l'espace africain. Et il prend pour modèle Louis-Ferdinand Céline. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, parce qu'on n'associerait pas de fait les deux. Kuruma a souvent été raillé pour ses lacunes de lecture. Mais ceux qui l'ont approché savent, et lui-même l'a souvent dit, que Céline est comme inventeur de langue, comme logothète, comme on dirait, inventer vraiment une langue, était son modèle. On l'a aussi associé un tout petit peu à Rabelais, mais c'est quelqu'un qui intéressait premièrement la puissance inventrice et créatrice de la langue. Évidemment, ça crée deux choses. Lorsque c'est tout nouveau de cette manière-là, lorsque c'est aussi nouveau, ça peut créer de la répulsion ou du dépit. Et on l'a vu jusque tard, jusqu'à la mort de Kuruma. En 2000, par exemple, anecdote, il est finaliste du Goncourt et le président de l'époque dit que lui vivant, aucun écrivain qui utilise la langue française de cette manière-là ne recevra le prix Goncourt. Parce que c'est trop nouveau, parce que ça lui semble trop exotique, trop tropicalisé, etc., etc. Mais d'une autre façon, certains écrivains reconnaissent très vite, certains journalistes critiques et même les lecteurs reconnaissent très vite l'extraordinaire valeur, l'extraordinaire nouveauté, cette forme, à la fois cette manière d'être à la fois très classique et tout à l'inverse de toute forme de classicisme. C'est ça qui séduit et qui fait que c'est d'abord un écrivain extrêmement puissant par son invention. L'homme, lui, a souvent été raillé, Mongo Betty l'a raillé, même Yambo Ologem l'a raillé, mais disons que là, il faut vraiment faire la différence entre l'œuvre et l'homme tel qu'il peut parfois incarner sur l'œuvre.
Citons quelques titres.
Alors, je crois que dans sa production, il y a évidemment Les Soleils des Indépendances qui est le texte le plus connu, le plus classique, le plus ancien. Mais à mon avis, le livre où son inventivité éclate le plus fortement, c'est le deuxième livre, Monnaie, Outrage et Défis, parce que je crois que c'est là qu'il pousse le plus loin, qu'il radicalise cette question de la malinquisation du français. Et même de façon historique, je crois que c'est le livre qui chronologiquement s'intéresse à la période avant les Soleils des Indépendances, donc à la période finalement précoloniale, où il y avait aussi de la violence et une servitude qui était infligée par les notables africains eux-mêmes. Donc s'il faut établir un parallèle, il y a évidemment cette date de 68 entre Kuruma et Wologem, mais dans les œuvres, le livre qui se rapproche le plus du devoir de violence de Wologem, c'est Monnaie, Outrages et Défis.
La critique se fera aussi sournoise, on l'a vu avec son jumeau qui va connaître cette malédiction et ce retrait. On a accusé Amadou Kourouma de ne pas avoir écrit ces livres aussi cliniques, oui. Critiques lancinantes, répétées. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?
Là encore, on est au cœur de la fabrique des classiques africains, puisque l'anathème qu'on jette sur beaucoup de classiques africains, on l'a jeté sur Kourouma, bien sûr, mais on l'a aussi jeté sur quelqu'un comme Kamara Lai, comme on l'a jeté sur quelqu'un comme Sonny Labutansi, et qui consiste à dire que ces auteurs ne sont pas les auteurs de leurs livres, que ce soit leurs éditeurs ou leurs femmes blanches, évidemment, qui sont les auteurs des livres, est tout à fait récurrente. Et Kourouma, qui a épousé une Française, et qui a le malheur de ne pas être très éloquent, qui a le malheur de ne pas être très flamboyant avec la parole, qui a cette sorte de grand rire kouroumien qui est rentré dans la légende, le pauvre Kourouma est tout à fait accusé d'être simplement un illettré. Et l'accusation vient évidemment des Occidentaux, mais elle vient aussi des autres Africains, puisque Mongo Betty, par exemple, le grand écrivain camerounais, l'accuse d'être tout à fait inculte.
Il retourne le stigmate et l'accusation, parce qu'on a souvent occulté cette dimension politique dans l'œuvre d'Amadou Kourouma. Il a un regard particulier sur la littérature qui évolue un peu en vase clos, qui est en déconnexion avec les publics africains, parce que ce n'est pas la langue. Je vous propose d'écouter cet archive de 1980.
Mais je ne me considère pas comme écrivain. Et puis en outre, au fond, il y a un problème quand même essentiel qu'il faut poser. Et moi, je suis de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est peut-être 99 ou 98% des gens qui ne savent pas lire et écrire. Alors, être écrivain, là, est-ce que ça signifie quelque chose, au fond ? C'est pas grand-chose. Moi, je suis, si vous voulez, d'un peuple d'analphabètes. Alors, écrire, ces gens-là ne lisent pas. On copie un peu ce qui se fait un peu chez vous, ou écrire à un sens. Si vous voulez écrire, je ne vois tellement pas. C'est entre nous, ça se limite. Quand moi j'écris un livre, c'est mes camarades qui ont fait un peu des études comme moi, qui lisent entre nous. C'est quelque chose de salon.
Quelque chose de salon, Mohamed Mougarsar.
C'est très drôle et un peu tragique aussi, puisqu'on sent une sorte de douleur dans ce qu'il dit, mais aussi une grande lucidité. Je crois que personne ne lui donnera tout à fait tort quant au fait que lorsque l'on écrit dans certains pays, et aujourd'hui encore, on s'adresse essentiellement à une élite qui est minoritaire. Cependant, tout en prenant en considération la question de l'écriture en langue nationale, il faut continuer à écrire dans une langue, même si c'est la langue française, même si ce n'est pas notre langue, mais quel est un héritage ? Et Kourouma est la preuve, puisque son premier roman écrit en 68 est toujours un classique, et qu'on le lit encore aujourd'hui, et qu'on fait encore aujourd'hui à RFI des émissions sur Kourouma, qui seront écoutées sur le continent africain, c'est peut-être la preuve que finalement, ce n'est pas si vain d'écrire une œuvre qui ait une certaine valeur et qui soit capable, quelle que soit la langue, de traverser le temps.
Afrique, mémoire d'un continent.
Afrique, mémoire d'un continent, reçoit Mohamed Mbougarsar, écrivain sénégalais, apprenti-chercheur qui a suspendu cette thèse. Oui. Et je prie pour que cette thèse soit poursuivie un jour, qui a consacré une bonne partie de ses recherches à cette année 68 et à ses figures littéraires. Yambo Wologem, Amadou Kourouma, dont on parle. Yambo Wologem, notons-le, qui a inspiré votre livre primé par le prix Goncourt, et vous lui avez d'ailleurs dédié les livres. Mais je vous propose, Mohamed Mbougarsar, de prendre un peu de large sur l'année 68 de manière beaucoup plus générale. Elle est connue pour les bouleversements politiques majeurs sur le continent. Elle a aussi consacré toute une révolution littéraire, et ce jusqu'au Ghana, oui. Par exemple. Qui sont les autres révélations de cette année? Et que peut-on dire généralement sur l'impact que ces auteurs de 68 ont eu dans le destin du continent?
L'autre grand écrivain, disons, de l'année 68 est un Ghanéen qui s'appelle Ayikwe Arma, qui écrit un livre remarquable, qui publie un livre remarquable à l'époque qui s'appelle L'âge d'or n'est pas pour demain. The beautiful ones are not yet born. Ayikwe Arma est tout à fait écho, ce livre fait écho au travail que fait Kuruma au même moment. C'est-à-dire qu'il y a un grand désenchantement et c'est la chronique de la corruption, d'une corruption d'État et d'un État africain, d'un pays africain dont l'âge d'or ne peut pas être pour demain, pour la simple raison qu'il végète encore, qu'il est dans la prolongation d'un système colonial de prédation, de corruption et de violence. Quelques mois avant 1968, fin 67, un Sénégalais publie La Plaie, ce roman.
Malick Fall.
Malick Fall, exactement. Publie aussi ce roman-là où on voit une figure qui s'appelle Magamou dans le roman, qui fait aussi le constat assez désenchanté d'une société post-coloniale qui est tout à fait tiraillée et qui n'arrive pas encore à se relever de la blessure coloniale. On pourrait penser que cette année 68-là est une sorte, sur le plan littéraire, de revendication et de critique assez désenchantée. Mais encore une fois, ce que tous ces livres disent ne concerne pas simplement le geste post-colonial. C'est qu'ils renvoient automatiquement à l'époque précoloniale dans laquelle les responsabilités sont aussi situées du côté des notables africains eux-mêmes, sans nier évidemment toute la violence qui vient de l'extérieur. Et c'est ce qui fait la particularité de cette année-là, du Sénégal au Ghana, en passant par le Mali et la Côte d'Ivoire.
Un mot de conclusion, plus de 50 ans après, vous faites vivre cet héritage des aînés dans vos livres, comme chercheur, comme écrivain. Quel regard portez-vous sur cette année et la jonction avec le présent?
Ce que tous ces livres et auteurs ont eu comme héritage le plus important sur le plan littéraire, c'est qu'ils ont libéré toute une génération à laquelle j'appartiens aussi sur la question du politique. Qu'est-ce qu'écrire un livre politique? Ce n'est pas écrire nécessairement un livre engagé. La nuance là est très importante et très intéressante. Et je crois que tous ces auteurs, Kuruma, Wologem, ont permis de situer sur un autre plan la question du politique. Écrivain politique, pas nécessairement écrivain engagé. La nuance est de taille et pour moi, elle est féconde. Elle a donné le meilleur.
Le meilleur que l'on retrouve dans la plus secrète mémoire des hommes.
Vous êtes gentil.
Qui vous a valu le prix Goncourt. Merci infiniment, mon cher Mohamed Mbougersar, pour votre disponibilité.
Merci
et ce témoignage. Et j'espère vivement que vous continuerez à produire de la recherche à côté de la littérature.
C'est une autre question.
Les années sont les marqueurs de l'histoire et les hommes qui les incarnent. Elles consignent les faits, mais plus encore les mémoires et les souvenirs. Elles restent des repères chronologiques et surtout des ressources à connaître pour la transmission. 1968 a vu naître des héros aux fortunes diverses, de l'envol plein de promesses à la malédiction. Ce sont les beaux et contrariés destins de Yambo Wologem et de Amadou Kourouma. Sur le terreau de leur mémoire a germé et prospéré la gloire d'un héritier, Mohamed Mbougersar, qu'on remercie très chaleureusement de leur donner une éternité et dans son livre et dans notre émission. C'est la fin d'Afrique, Mémoire d'un continent. Vous retrouverez l'émission en podcast sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Merci à toute l'équipe, Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fatraoré à la réalisation. La semaine prochaine, aux commandes de ce micro, Penaï Traoré.